auditeurs, chers auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, nous accueillons ce soir, comme nous avons régulièrement l'habitude de le faire sur nos ondes, Jean-Pierre Baldite, qui est spécialisé dans l'histoire locale, dans l'histoire, notamment l'histoire de l'Occitanie, l'histoire du sud-ouest de la France, et qui est quelqu'un qui s'intéresse tout particulièrement à l'histoire politique de la France et à la formation de la nation française. Et justement, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, la thématique de notre émission sera « Qu'est-ce qu'une nation ?» Qu'est-ce qu'une nation, pour reprendre le titre d'un fameux ouvrage de Ernest Renan, qui est resté célèbre et qui d'ailleurs, depuis, je pense qu'on n'a pas eu de meilleure définition de la nation que celle-ci. Parce que c'est une définition qui n'est pas incompatible, qui est tout à fait compatible avec l'idée qu'on peut se faire d'une république magnifiée, encensée et fantasmée, celle d'une république qui est ouverte au reste du monde, qui est multiculturelle, qui est humaniste et qui est laïque. Bien entendu, il s'agit, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une symbolique et d'un fantasme, puisque effectivement la République française, dans la réalité, essaye de tendre vers, certes, et elle essaye de se doter des outils pour se faire, mais elle n'est pas encore à l'image de ce que le fantasme a dessiné. Et justement, Ernest Renan donc donne une très bonne définition de la nation. Il ne dit pas c'est ci ou c'est ça, il dit c'est un projet. C'est un projet collectif. Donc un projet collectif, c'est une série de volontés qui s'additionnent pour aller vers un même objectif. Cet objectif étant, bien entendu, de faire en sorte qu'un jour, la République française ressemble à ce qui n'est encore, comme je le disais tout à l'heure, qu'un fantasme. Donc Jean-Pierre, je vais te demander de nous donner ta définition de la nation française. Si tu veux bien te présenter un petit peu, tu l'as déjà fait à plusieurs reprises sur nos ondes, mais je pense que c'est bien que tu le refasses encore.
Oui, donc comme tu l'as dit, j'ai fait quelques études d'histoire et d'anthropologie culturelle, et je me suis posé en tant qu'Occitan et Occitaniste ensuite quelques questions sur la façon dont l'État français, et par-delà la nation indirectement, a maltraité les langues de France. Alors, et c'est à partir de là que j'ai essayé de creuser un petit peu une réflexion sur la nation. Alors, pour reprendre ce que tu as dit du texte de Renan, il faut le replacer dans son contexte. On est en 1882, après la défaite, et donc il faut trouver un moyen pour justifier l'esprit de revanche qui commence à naître, notamment au sein de la bourgeoisie française. Je ne pense pas que le peuple soit réellement intéressé par ce genre de choses, surtout à cette époque où le peuple, début de la Troisième République, c'est une république bourgeoise, qui n'est pas encore laïque d'ailleurs, qui se désintéresse complètement de la classe ouvrière qui est montante, et qui a d'autres préoccupations que l'établissement des nouvelles ou la récupération d'anciennes provinces. Enfin bref, c'est dans ce contexte que Ernest Renan écrit son ouvrage. Alors son ouvrage est considéré comme effectivement celui qui pose aux yeux du monde la définition, une définition de la nation, définition dite à la française, face à la définition allemande. Et on voit bien le contexte. Alors, la définition allemande, c'était très simple. C'était une définition qui se voulait objective et scientifique. C'est grosso modo une communauté de langues crée nécessairement une nation, ce qui permet d'ailleurs à l'Allemagne de justifier l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, même si dans la partie annexée, il y a pour des raisons économiques une partie qui est tout à fait romane, qui est tout à fait de langue française, Lorraine. Cette vision objective, elle sera aussi la base de la plupart des nationalismes anti-impériaux du 19e siècle et du 20e siècle encore. Hein. C'est cette conception qui permet à la Grèce au 19e de se libérer, puis à la Bulgarie, la Roumanie, et ultérieurement la Tchéquie, la Slovaquie, devenue Tchécoslovaquie, les différentes républiques slaves du Sud, Yougoslaves, etc., etc. Cette définition, qui d'ailleurs pêche quand même aux yeux des Allemands, puisque en Suisse, la Suisse alémanique n'a jamais souhaité rejoindre l'État allemand ou ne se considère pas comme faisant partie d'une nation allemande. Mais bon, c'est une définition qui est simple, qui est scientifiquement validable. Sur le terrain, on fait appel à des linguistes et on a la définition de la nation. Ernest Renan, évidemment, ne peut pas accepter cette définition, d'autant qu'on est au 19e siècle, je répète, et à une époque où en France, à peu près un tiers de la population ne parle pas encore le français comme langue première, même si une grande majorité comprend le français. Je veux parler bien sûr des Occitans, mais aussi des Catalans, des Basques, des Bretons, des Corses, des Franco-Provençaux, etc. Bon, et des Flamands. Il reconnaît d'ailleurs dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ?», il reconnaît que la France s'est faite par la terreur. Il parle d'un siècle de terreur pour parler des conséquences de la guerre contre les Albigeois. C'est ce que j'ai expliqué dans une émission précédente. Il parle, sans jamais le citer, mais il fait allusion à un grand roi qui en réalité a été particulièrement féroce au XIIIe siècle, c'est Saint-Louis, même si effectivement il alliait, comme il disait, la main de fer et la justice. Bon. Et il parle d'un siècle de terreur. Et il a tout à fait raison. Donc il ne peut pas évoquer la langue pour justifier la nation et le terme de nation française. Il évoque la volonté de vivre ensemble et de bâtir un projet commun. Ce qui est effectivement en phase avec la naissance de la République, puisque la République est un projet commun. Enfin, je dirais que c'est, à l'époque, un projet de la bourgeoisie. N'oublions jamais que une masse importante des paysans n'est pas intéressée et ne le deviendra que à la fin du 19e siècle, grâce à une politique très protectionniste qui la met en avant, celle de Méline, et que la classe ouvrière, elle est complètement exclue en 1882. Complètement exclue. Donc c'est un projet commun. Il n'y est plus fait référence à la théorie allemande dite objective, donc basée sur la langue. On a vu pourquoi. Hein. Il ne peut pas parce que, en plus, Renan, ne l'oublions pas, est breton. Donc il sait très bien que le plurilinguisme existe en France et qu'on ne peut pas définir la nation française par la langue. Mais il reconnaît tout de même que la France s'est construite autour d'une dynastie et d'un État avec des méthodes qui sont des méthodes que l'on dirait aujourd'hui coloniales. Et c'est d'ailleurs tout à fait curieux parce que dans son texte, il estime que l'on ne doit pas prendre une province, il dit une province sans l'assentiment de sa population, mais on est en pleine création de l'Empire colonial. C'est une contradiction énorme, c'est-à-dire que d'un côté, on ne doit pas forcer les peuples à s'intégrer à une nation au moment même où la République est ultra-colonialiste. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour ces deux définitions. Maintenant, le texte de Renan, qui est très souvent utilisé par les hommes politiques, me semble ne pas avoir été lu dans son intégralité. C'est-à-dire que Renan dit aussi trois choses. que souvent les politiciens oublient. La première chose qu'ils disent, c'est que le consentement des populations doit être vérifiable et vérifié. Ce qui signifie, quelque part, qu'il y a le droit au séparatisme. Donc, dans l'article de la République, tel que l'article 1, la France une et indivisible, indivisible, Ronan dirait niette. Il dirait niette. Deuxième point, Ronan explique très bien, en prenant comme par comparaison la Suisse, explique très bien que la variété ethno-linguistique, culturelle, que la variété est tout à fait possible dans une nation. Ce qui veut dire que là aussi, il réfute l'article 1 de la République. La France est une et indivisible, pas du tout. Si on écoute bien Ronan, la nation française pourrait être plurielle et divisible, ce qui est mon projet politique.
Très bien. Est-ce que tu peux réexpliquer le point 1 okay. Tu as donné deux points différents. Le premier point.
Alors, le premier point, c'est par rapport au consentement et au projet. Il dit que la nation est fondée sur le consentement de la population et sur un projet qui entraîne cette population. Alors je rappelle que ça a un côté un peu artificiel. En 1882, je le répéterai toujours, il n'y a aucun projet pour la classe ouvrière.
Ça pourrait être par exemple aujourd'hui par un référendum.
Alors ça peut, c'est effectivement, si on entend bien, même si à l'époque, c'est pas dans le contexte de l'époque, mais ça sous-entend que le référendum tel qu'il d'ailleurs s'applique et s'est appliqué et va encore s'appliquer probablement à la Nouvelle-Calédonie, le référendum de droit à l'autodétermination ou bien le référendum de droit à la différence de la Corse ou de l'Alsace sont tout à fait légitimes aux yeux de Ronan et que cela ne remet pas en cause la nation, contrairement à ce que racontent les ultras. Alors on dit jacobins, je répète à chaque fois que je n'aime pas du tout ce terme, les jacobins n'étaient pas des affreux centralisateurs, ils ont appliqué une politique de défense nationale qui était centralisatrice par la force des choses, mais que la constitution qui n'a jamais été appliquée n'était pas du tout, n'était, la constitution de l'an 2 n'était pas du tout jacobine, elle était communaliste. Bon, passons. Donc pour moi le centralisme c'est Napoléon, c'est essentiellement Napoléon, même si auparavant il y a eu des rois qui avaient bien avancé la chose, des rois et des ministres, Richelieu par exemple. Mais le vrai centralisme tel que nous le subissons encore aujourd'hui et qui a sans arrêt des relances, et notamment sous Macron, c'est Napoléon. Donc le point numéro un, c'est le droit à la vérification de l'adhésion des populations au projet national, ce qui veut dire l'appel au peuple, l'appel au vote, et donc le droit à l'autodétermination ou le droit à choisir sa voie. Et d'ailleurs, les passages dans lesquels il expose son admiration pour la Suisse montrent bien que Ronan, qui est souvent récupéré par des républicains centralistes, est en réalité profondément fédéraliste.
D'accord. Aujourd'hui, là tu me parles du projet de la nation française telle qu'elle était à la fin du 19e siècle. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des restes de cette nation, de ce projet dont tu parles ? Est-ce que la frange capitaliste, on va dire, entre guillemets, si on veut parler en termes marxistes, on va dire la frange bourgeoise, comme tu disais tout à l'heure, là on reprend aussi une théorie marxiste de la Révolution, qui, attention, n'est pas la même pour tous, hein. Est-ce que tous ces gens-là ont réussi à répandre leurs idées et à faire de l'idée républicaine une idée pour tous ? Est-ce qu'il y a une faillite dans tout ça ? Est-ce que la nation est là ou est-ce qu'elle est fissurée ?
Alors, le problème, c'est que il me semble qu'il ne faut pas confondre nation et république.
Non, attention. Je n'ai pas confondu nation et république. Bien entendu, nation, république, état sont trois termes très différents les uns des autres. Pour moi, la nation, c'est un projet commun. La République, un idéal vers lequel on tend, comme je le disais tout à l'heure. Et pour tout ça, on a un outil qui s'appelle l'appareil d'État, l'État. Voilà. Et donc voilà, c'est avec ces trois choses qu'on arrive à faire quelque chose collectivement. Mais tout à l'heure, attention, je disais confondais donc justement pas du tout l'idée de République avec l'idée de nation. Simplement, je disais que à l'époque d'Ernest Renan, et Renan le définit lui-même, il dit la nation, c'est un projet collectif, et il nous dit le projet c'est la République. Enfin, il n'est pas tout seul à dire ça, mais ils sont nombreux à nous dire le projet c'est la République. Est-ce qu'on savait où on allait, ce qu'on avait, bon, mais en tout cas c'était ça. À notre époque, est-ce que je te posais la question de savoir si toi qui me dis que cette idée de révolution pour arriver à l'avènement de la République, ça appartient surtout une affaire de capitalistes, j'allais dire de bourgeois. Est-ce qu'ils ont réussi, ces gens-là, à répandre cette idée, à l'étendre à l'essentiel de la nation française, aujourd'hui, à notre époque ? Cette idée qu'un projet collectif nous mène et que c'est la République, cet idéal vers lequel on tend.
Oui, alors Ernest Renan était un républicain très modéré. Hein. Il n'a pas toujours été républicain. Il a plutôt évolué effectivement de la droite entre guillemets vers la gauche dans sa vie. Hein, mais c'est pas un républicain extrémiste. En ce qui concerne la nation. Dernier point que je n'ai pas encore évoqué dans le texte de Renan, et qui est là aussi oublié par les politiciens qui l'utilisent, qui sont souvent des politiciens centralistes, hein, voire parfois nationalistes, qui utilisent Renan contre, par exemple, l'Europe, la construction européenne. Renan dit, c'est la fin de son texte, il dit que les nations, comme les empires, comme les êtres vivants, sont datées, c'est-à-dire qu'elles naissent, elles vivent, elles meurent. Il le dit bien, elles meurent. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est que d'abord, c'est historiquement vrai ce qu'il dit, et la question qu'on peut se poser, si effectivement on n'est pas en train d'assister à la mort de la nation française, très très lente. Et c'est là qu'il faut revenir au projet républicain. Le projet républicain, on peut le voir de deux façons, de façon dialectique. D'un côté, c'est un projet pour asseoir définitivement le pouvoir de la bourgeoisie sur un État qui avait fait la révolution bourgeoise en 89, qui avait débouché sur une dictature impérialiste, hein, Napoléon, il faut dire les choses comme elles sont, mené par celui que les Anglais appelaient justement l'ogre, qui dévorait les peuples et qui dévorait les nations d'ailleurs, hein, en les redécoupant au profit de sa famille pour des intérêts personnels, hein, c'est assez proche de Poutine, hein, finalement, hein, bon, et il faudrait jamais l'oublier, hein, moi le culte de Napoléon est quelque chose qui m'horripile au plus haut degré. Bon, donc c'est le côté, oui, la République est un projet de mainmise définitive d'une certaine bourgeoisie, c'est pas toute la bourgeoisie, d'une certaine bourgeoisie sur l'appareil d'État. Mais le projet républicain portait en germe les capacités de dépasser cette mainmise de la bourgeoisie. C'est ce qu'avait très bien compris Jaurès. Jaurès qui parlait d'une République inachevée, et qui considérait que pour que la République soit achevée, il fallait intégrer la classe ouvrière qui ne l'était absolument pas, et qui l'a été pendant quelques décennies, au XXe siècle, essentiellement grâce à l'action du Parti communiste. Hein, on peut critiquer sa stratégie, on peut critiquer son allégeance un peu aveugle à l'URSS. Il n'empêche que ça a été un grand instrument d'intégration dans la République de la classe ouvrière et aussi, il faut le dire, de l'amélioration de ses conditions de vie. Ce qui permettait à cette classe ouvrière d'adhérer au projet républicain et de se retrouver très massivement dans le camp opposé à la collaboration, alors que la même bourgeoisie était largement collaborationniste durant la Deuxième Guerre. Donc le côté, il y a un côté dialectique donc, dans le projet républicain, sauf que ce projet républicain finit un jour ou l'autre par s'étioler au même moment que la nation s'étiole. C'est-à-dire la construction européenne qui est en réalité une réaction, une régression en termes socio-économiques, ce que j'appelle moi la grande régression néolibérale, évidemment ne peut que détacher du projet républicain l'ensemble des classes populaires. Alors s'y ajoute en plus la très grande incapacité de l'État français et peut-être aussi d'une partie de la population française à comprendre la diversité, parce que on l'a éduqué pendant X décennies dans le mythe de l'unité, la fameuse France une et indivisible, et que ce mythe de l'unité est aujourd'hui battu en brèche par la réalité des populations. Il suffit de se promener, d'écouter parler les gens. Il y a des gens qui viennent de la planète entière et qui souvent en plus sont la nouvelle classe populaire. Je ne dis pas ouvrière puisque malheureusement beaucoup d'usines ont fermé, mais enfin sont la nouvelle classe prolétaire. Et que cette nouvelle classe prolétaire, comme à la fin du 19e siècle, elle est exclue. Elle est exclue du projet. Du projet qui n'est plus national, qui est un projet supranational, qui est un projet européen, mais un projet européen dans lequel ils sont les esclaves. Ces populations sont les nouveaux esclaves.
Tout à fait. Et cette césure dont tu me parles, moi j'ai l'impression que la République a su exister, parce qu'il y a quand même de très belles choses qui ont été mises en place. Tu les as déjà énumérées, mais tout ça, aujourd'hui, ça se fissure beaucoup. Il y a aussi, il faut bien le reconnaître, la décentralisation, la déconcentration. Autant de choses qui, pour moi, font partie de l'idée républicaine telle que je me la fais, et de cette idée d'un chemin, de tendre vers. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça se fissure, en fait. Alors même qu'on n'est pas arrivé encore au but. Parce que le but, finalement, c'est que les gens soient heureux, qu'il y ait une véritable mixité, qu'on fasse avancer un petit peu les valeurs de la République et les trois grands principes qui ornent le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, auxquels on devrait pouvoir ajouter des notions plus contemporaines. Maintenant qu'on a un peu évolué, il y a la mixité et la laïcité qui devraient, je pense, faire partie de la devise. Aussi, on devrait rajouter au moins ces deux termes. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que on a bien l'impression que ce bel édifice est fissuré de partout, parce que peut-être que ses fondations n'étaient pas bonnes, et que en témoignent toutes les discussions qu'on a aujourd'hui sur les futures présidentielles, qui sont quand même en 2027, alors qu'Emmanuel Macron vient à peine d'être élu. On parle déjà de la future présidentielle, et nombreux sont les pronostics à miser sur Marine Le Pen et le Rassemblement National. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Jean-Pierre ? Parce que tu dis tout à l'heure, une certaine partie de la population qui est laissée de côté sur tous les plans, culturel, c'est la gabégie culturelle, économique, sociale et historique, parce que ces gens-là, on les enlève de l'histoire, on fait comme s'ils n'avaient jamais existé. Et bien, on les nie, c'est une négation des individus quand quelqu'un est obligé toute la quand quelqu'un est obligé de compter tout ce qu'il met dans son chariot à cause de l'inflation et qu'il ne lui reste rien à la fin du mois une fois qu'il ait payé ses factures, on peut dire que c'est une négation des individus. On est d'accord. Un des paramètres les plus importants pour évoluer dans notre société, ça reste quand même le compte en banque. Et malheureusement, ça, une grande partie de la population est laissée de côté par rapport à tout ça. Et ne peut pas se socialiser. La mixité n'est pas possible, on va dire, entre guillemets. On ne peut pas faire évoluer la République et nos devises républicaines vers cette fameuse idée de mixité et de laïcité, les deux vont de pair. Ce sont deux termes qui pourraient être a priori contradictoires, mais laïcité et mixité, ce sont deux choses qui vont ensemble. Et l'une ne va pas sans l'autre, on va dire. La mixité ne serait invivable sans la laïcité, et la laïcité ne saurait exister, vraie, ne saurait exister et être éprouvée par le faire s'il n'y avait pas de mixité. Et donc en fait tout ça, ben ça part en, ces deux termes là on ne peut pas les rajouter à notre édifice républicain. Ça veut dire la République, comme certaines religions qui stagnent, ne peut pas évoluer. Et pourquoi elle ne peut pas évoluer? Tout simplement parce que il y a cette fracture qui, je pense, est principalement lié à des considérations économiques. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben c'est à peu près ce que je disais, c'est-à-dire que la vague néolibérale a accentué de façon invraisemblable les inégalités et a fracturé complètement la classe ouvrière d'autrefois, qui avait été effectivement intégrée par la lutte, hein, il faut le dire quand même, qui avait été intégrée par la lutte et par une certaine souplesse des institutions, très relative, qui avait été intégrée à la République bourgeoise. Bon. Et qui avait permis un certain nombre d'avancées avec, bien sûr, la grande fracture qui a été la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Après la grande crise de 1929 aussi, où l'analyse de la crise de 1929 a permis d'établir un espèce de consensus sur les solutions pour que ça ne se reproduise pas. Et ces solutions, c'était effectivement l'intervention de l'État. C'est là qu'on arrive sur le troisième terme dont on n'a pas encore trop parlé, c'est-à-dire nation. On a parlé de nation, république, État. Alors l'État, c'est pas obligatoirement la République. On l'a vu malheureusement pendant la collaboration. L'État ne s'est pas effondré. Et
c'est une notion très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent justement les trois notions nation, république et État, et ça porte beaucoup de choses, pose beaucoup de problèmes. Et justement, l'État, l'appareil d'État, c'est l'appareil de coercition, c'est l'outil qui est censé permettre à la nation d'évoluer pour qu'un jour la République puisse naître.
Alors, dans l'idéal, oui. Dans la pratique, on peut dire que l'appareil d'État, c'est effectivement le système de coercition par la loi, par la police, par diverses institutions pour maintenir en place une classe dominante. Là, je fais du marxisme élémentaire, mais malheureusement, je pense que c'est vrai. Alors, cet État, il s'est mis au service de l'ensemble de la population suite à des luttes et suite surtout à sa, je dirais, à sa conduite absolument scandaleuse pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à la collaboration. Et que l'appareil d'État, y compris au niveau de beaucoup de fonctionnaires, ayant collaboré, s'est trouvé effectivement un peu prisonnier. On a éliminé les plus visibles, et on a demandé à...
On ne peut pas les empêcher.
Alors, Jean-Pierre, ne t'inquiète pas, je précise à nos auditeurs, on est aujourd'hui avec Jean-Pierre dans un espace qui est un petit peu public et il y a un petit peu de bruit. Alors, on s'en excuse, c'est pas grave. Jean-Pierre, je vais juste te dire, on va faire une petite pause, on va mettre une musique. Voilà. Tout à l'heure, tu m'avais parlé, Ma France à moi, de Jean Ferrat.
Ma France, tout
à l'heure. Allez, Ma France, pardon, de Jean Ferrat.
De plaines en forêts, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand grand soleil d'été qui courbe la Provence. Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France,
bon allez on reprend. Donc c'était Ma France de Jean Ferrat. Alors Jean-Pierre, on était en train d'évoquer les échecs. Et tu étais en train de parler de l'appareil d'État, de l'État, qui est une notion un peu particulière. On était en train de dire, effectivement, l'État peut être, c'est un outil, il ne faut pas le considérer autrement. Un appareil d'État avec son outil coercitif, l'armée, la police, la justice, et toutes ses fonctions régaliennes. Et il a la possibilité de voter des lois, de faire voter des lois, et de les faire mettre en application. Et or, cet appareil d'État, il peut être très mal utilisé, cet outil-là. Il peut très bien être utilisé, on l'a vu sous Vichy, pendant la collaboration, pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'appareil d'État était là, mais est-ce que la nation était là, à ton avis ? Une petite question. Bon, Jean-Pierre, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît ? Bon, là, on s'est fait un... C'est pas grave, comme je l'expliquais à nos auditeurs, on a un petit peu de bruit.
Oui, ben entre-temps, je ne me souviens plus vraiment de la question, mais on parlait effectivement de l'appareil d'État. Je rappelle quand même que Jaurès a bien défini que l'appareil d'État, il avait un passé. Je veux dire, il se transforme, certes, mais il a un passé. Alors, il y a eu un appareil d'État qui était au service du roi, d'une dynastie et de la noblesse, la classe dominante. Ensuite, cet appareil d'État, il s'est mis au service de la bourgeoisie, avec plus ou moins d'hésitation, avec des retours en arrière, le passage par le Troisième Empire, où un appareil d'État est très ambigu. Et puis ensuite, cet appareil d'État, il s'est définitivement mis au service d'une bourgeoisie qui était colonialiste. Mais comme le régime politique choisi était un régime qui laissait des places de liberté, notamment par le vote et par la lutte sociale, la grève, etc., cet appareil d'État a été contraint, pour des raisons historiques, de se mettre au service de dirigeants qui, eux, étaient issus de la mouvance, je dirais, ouvrière au sens marxiste, c'est-à-dire des partis que l'on qualifiait de non-bourgeois. Et c'est en ce sens que ces partis de non-bourgeois ont essayé d'améliorer les choses sans jamais faire une révolution complète. C'est ce que leur reprochent d'ailleurs les trotskistes aujourd'hui. Maintenant, étaient-ils en mesure de faire plus? Ça, c'est une question que l'on peut se poser dans le contexte de la libération avec les Américains un peu partout en Europe de l'Ouest. Ça paraissait totalement illusoire de penser qu'une révolution de type soviétique aurait pu avoir lieu en 46 en France, quoi, en 45-46 en France. Mais des avancées sociales ont été faites de façon considérable. Et elles ont été maintenues par l'appareil d'État tout au long de la 4e République et d'une grande partie de la 5e République, c'est-à-dire la période gaulliste, même la période pompidolo-giscardienne était relativement dans une certaine continuité. La rupture, je suis désolé de le dire, la rupture, c'est le projet européen, qui est un projet tout à fait anti-républicain. On le voit bien puisqu'il n'y a pas de suffrage universel au niveau de l'Europe, qui est un projet politique et économique avant tout, un projet de ce que j'appelle une URSS libérale. Et évidemment, vous n'entraînerez pas les peuples sur cette espèce de projet, d'autant plus que ce projet n'a même pas été capable de maintenir la paix en Europe, on l'a vu en Yougoslavie par exemple. Et surtout, il n'a amené une relative prospérité que dans des pays qui partaient de très très bas, et il a par contre amené à une régression objective au niveau de la société en France, tout cela au profit d'un modèle qui était un modèle économique théoriquement libéral et politiquement au service de l'Allemagne.
D'accord. Et pour toi, enfin, ce que tu ressens comme une rupture, est-ce que pour toi c'est une rupture aussi profonde que la collaboration Vichy?
Ah ben non, c'est symboliquement c'est une rupture lente, je dirais, c'est un assassinat lent, alors que Vichy a été un assassinat brutal et à certains égards parfois ambigu, puisque autour du maréchalisme, donc pas de la collaboration pure à la Laval, mais autour de ce qu'on appelait le maréchalisme, il y avait un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient plutôt néo-étatistes et qui étaient plutôt opposés à la domination bourgeoise colonialiste telle qu'elle avait été en vigueur sous la Troisième République. Donc là, je dirais que c'est un poison lent qui nous est institué, un poison lent que l'on subit lentement dans nos veines, qui s'appelle l'Europe libérale. Alors ça ne veut pas dire que le projet européen soit en lui-même condamnable. Ce qui est condamnable, c'est son orientation univoque et son absence totale de démocratie. On a voté en France contre ce projet univoque libéral, personne n'en a tenu compte puisqu'on a eu le traité de Lisbonne qui reprend exactement les mêmes dogmes. Donc ce machin-là crée en retour un réflexe nationaliste, mais dans le très mauvais sens du terme, c'est-à-dire non pas avec un projet visé vers l'avenir, un projet commun vers l'avenir, mais vers une régression d'une nation française mythifiée, et en plus qui ressemble étrangement à la nation ethno-linguistique à l'allemande. Je veux dire, quand l'extrême droite parle de Gaulois, quand elle fait des fêtes du saucisson, quand elle rejette les populations de confession musulmane, et puis tous les étrangers en général, c'est...
Ou qu'elle les instrumentalise aussi, parce qu'elle ne fait pas que les rejeter, il y a aussi une certaine instrumentalisation. D'accord. Donc pour toi... la nation n'est pas, n'existerait plus. Elle serait partie.
Non, c'est pas tout à fait ça que je dis. Je dis que la nation est en train de se transformer dans sa réalité et que si elle veut survivre, je pense qu'une des priorités, c'est qu'elle change effectivement sa vision, notamment sa vision centraliste et pseudo-universaliste, parce que je rappelle quand même que l'universalisme à la française, c'est quand même ce qui a justifié le colonialisme le plus terrible qui soit. Un colonialisme qui était beaucoup plus féroce dans ses implications que le colonialisme anglais, qui était un colonialisme simple, au moins, je dirais, quasiment beaucoup plus honnête, puisqu'il s'agissait de piller les peuples et de piller les pays, sans jamais vouloir les assimiler à des Anglais, ou sans jamais prétendre que la civilisation anglaise était supérieure. Le colonialisme français, il est quand même féroce et hypocrite. Et que l'on me raconte pas qu'il y avait des élites parmi les indigènes, comme on disait, parce qu'en réalité, ça représentait même pas 1% de la population. C'était une sorte d'alibi pour se donner bonne conscience.
D'accord. Très bien. Donc ça, tout ça, c'est de la prospective en politique, hein, sur la vie politique française. On fabule un peu autour de tout ça. Simplement, moi, j'aimerais quand même rappeler quelque chose, c'est que l'idée de nation, c'est une définition qui n'est pas encore très claire dans la tête des individus. Et parce que, par exemple, je lis dans le commun des communs, hein, dans Wikipédia, comment est-ce qu'ils définissent la nation? Ils disent que le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple. Mais il ajoute souvent l'idée d'État, souhaité autonome ou indépendant. Et un peuple peut se concevoir ou non en tant que nation et à ce titre se doter ou non de la structure d'un État. On peut ainsi définir, dans une acception minimale, la nation comme une communauté humaine qui se reconnaît des traits communs culturels ou ethniques au nom desquels elle veut constituer une entité politique souveraine. Qu'est-ce que tu penses de cette définition que je trouve quand même très réductrice, surtout lorsqu'il parle en termes ethniques ou culturels, de points communs, parce que c'est l'antithèse de ce que on voudrait que soit la France. Du moins, une certaine gauche l'a-t-elle professé et développé, et même aussi, j'allais dire, presque une certaine droite aussi.
Alors, le problème, c'est que Wikipédia reprend quasiment, sans la modifiant très très peu, la définition de la nation, la définition à l'allemande, de ce que j'ai donné au début de l'entretien. Et ne retient absolument pas la définition de Ernest Renan, parce que la définition de Ernest Renan, elle est datée politiquement dans le contexte que j'ai expliqué, et qu'elle est, elle est difficile à percevoir à l'échelle de la planète. Alors, le modèle étant la Suisse, certes, mais il n'y a pas des milliers de Suisses sur la planète. Alors effectivement, moi aussi je trouve qu'à plein d'égards le modèle de la nation suisse est quelque chose de très intéressant, mais bon, c'est pas le ce qui domine sur la planète, malheureusement. Donc
je veux juste rappeler quelque chose, c'est que le modèle suisse a toujours été un petit peu à part, et certes on n'est pas tous suisses. Effectivement, nous avons notre histoire, on n'a pas à se calquer sur le modèle suisse, surtout que l'histoire du peuplement de notre territoire et de son organisation territoriale est particulière. On ne peut pas rompre avec non plus. Il faut toujours faire avec le bagage qu'on a dû passer, ça, parce que si on détruit le bagage qu'on a dû passer, comme ont pu le faire certaines utopies dans le monde, qui sont d'ailleurs des dictatures, ça finit toujours mal. Mais quand même, dans le modèle suisse, il y a des choses très positives, et c'est pas pour rien que la Suisse est connue pour être l'État, dans l'histoire des conflits mondiaux, l'État neutre, celui qui apporte la paix.
Oui. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la démocratie directe, l'hyper-décentralisation, l'absence de grands chefs, etc. Et la défense populaire. Donc, quand on fait le total, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui manquent à la France. Le respect des diversités, la démocratie directe, le sentiment que la défense est dans la main de tout le monde et non pas des spécialistes militaires galonnés qui ont fait des grandes écoles. Le respect du vote, la capacité de décider collectivement de beaucoup, beaucoup de choses par ce vote, par des votations, comme ils disent, et la décentralisation extrême et le refus total d'avoir un chef. Bon, ça, c'est un modèle. Maintenant, moi, je dirais qu'il y a eu, même ça va paraître bizarre pour certaines personnes, parce que par ailleurs, c'était dans une période de dictature et tout, il y a eu un modèle quand même où l'on avait inventé la nation comme projet, tout en respectant la nation comme réalité ethno-linguistique. C'est l'URSS. L'URSS, il y avait le projet politique qui créait la nation soviétique. C'était un projet politique, comme la République française, sauf que c'était un projet politique qui s'affirmait comme le pouvoir à la classe ouvrière ou, disons, aux classes populaires. Ok. Mais, malgré tout, c'était dans le respect de toutes les variétés ethno-culturelles, puisque l'URSS a sauvé plus de 60 langues qui, dans l'Empire russe, que l'on appelait quand même la prison des peuples, qui dans l'Empire russe étaient condamnées à la mort. Et d'ailleurs la preuve, c'est qu'à l'éclatement de l'Union soviétique, ce sont bien des nations avec des frontières plus ou moins ethno-culturelles, mais quand même à dominante ethno-linguistique, qui se sont reconstituées spontanément. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer une nation politique tout en respectant ce que j'appellerais les nations naturelles. C'est le modèle de l'Union soviétique, alors qui bien sûr avait des défauts à d'autres niveaux, bien entendu. Je ne vais pas justifier le stalinisme, les goulags et tout ça, mais je veux dire que du point de vue philosophique, du projet philosophique et de son application pendant les 80 années d'existence de l'Union, 70 années d'existence de l'Union soviétique, il y a eu cette double identité qui d'ailleurs était marquée sur les papiers d'identité des citoyens soviétiques. Hein. Voilà.
Oui, c'est un bel exemple que tu nous donnes, sauf que, comme tu le dis, il y avait quand même un glacis. C'est comme si on avait congelé tout ça et on avait cryogénisé tous ces trésors et tout ce bagage culturel et historique et linguistique, ainsi que culturel. Et puis il s'est réveillé d'un coup, et avec ce que ça donne aujourd'hui, on le voit bien.
Alors, la congélation, elle était politique, elle n'était pas culturelle. Je le crois pas, parce que je répète, hein, l'Union soviétique a sauvé des ethno-nationalités qui étaient condamnées à mourir. Elle en a sauvé beaucoup. Attends, je m'excuse. Il faut faire la comparaison avec la politique totalement inverse d'un autre pays qui avait soi-disant le même projet politique, c'est-à-dire la Chine, où là la politique est une politique extrêmement féroce de liquidation totale, d'assimilation totale, voire de génocide non seulement culturel, linguistique, mais presque de génocide physique. On le voit aujourd'hui avec les Ouïghours, qui sont quand même le peuple le plus ancien du monde turc, le plus vénérable du monde turc, puisqu'il était là, il est à la source de la culture turque écrite.
Justement, parce que c'est la différence entre la Chine et la Russie, c'est que la Russie a quand même une tradition de politique civilisationnelle. Moi, je parle de la Russie parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie. Et à l'époque, c'était l'URSS, mais c'était quand même la Russie, quand même, à la base. Et elle a quand même une tradition qui est une tradition de politique civilisationnelle à l'européenne, qui lui date de l'époque tsariste, où il y avait un rapprochement avec l'Europe. C'est pour ça qu'elle garde intact, elle a gardé intact ce capital, ce patrimoine culturel, historique, linguistique, etc., dont on parlait tout à l'heure. Mais elle l'a quand même un petit peu gelé quand même, Jean-Pierre, même si elle ne l'a pas écrasé, mais elle l'a conservé, certes, mais elle l'a conservé sans le laisser s'exprimer pendant les années du glacis soviétique et la guerre froide, parce que, voilà, tout à fait. Et on est d'accord là-dessus, on dit bien la même chose. Et ne serait-ce qu'avec le fait religieux. On n'avait pas le droit de... Le culte était interdit à l'époque, donc les religions aussi. Donc voilà, ça montre bien qu'il y avait quand même une cryogénisation, un arrêt sur image, quoi, on va dire, de tout ça. On est obligé de se dépêcher un peu parce que c'est l'heure. Il me semble que tu avais émis l'idée d'écouter une chanson de Serge Gainsbourg, la Marseillaise. Oui. D'accord, bah écoute, si tu veux, je la mets. Et puis, peut-être que nos auditeurs, à la fin, si on a encore le temps, entendront une mazarinade. Et je te demande juste une chose, Jean-Pierre, avant de dire au revoir à nos auditeurs, c'est d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une mazarinade.
Oui, alors, Mazarin, donc... Le ministre de Louis XIV jeune était très impopulaire parce qu'il a fortement augmenté les impôts. Après Richelieu, ça faisait vraiment sa saturation totale. En plus, on était à une période où il y avait des disettes, des famines et des épidémies. Et il était particulièrement détesté. Et le peuple se mettait à l'époque, il ne pouvait pas manifester trop dans la rue. Et donc, ben, il se mettait à chanter et ils ont créé plein de chansons qui sont devenues des chansons quasi folkloriques, qui ont été transmises au moins jusqu'à la Révolution française et qu'on retrouve et qui ont été ensuite bien sûr reprises par des musiciens et des chanteurs contemporains.
Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, je sais par oui dire que vous aimez bien Jean-Pierre parce qu'il fait des interventions drôlement sympas. Donc dès que je peux avoir des interventions de Jean-Pierre, j'en ai. J'espère qu'on en aura d'autres. Bonne soirée Jean-Pierre. Bonne soirée chers auditeurs. Bonne fin de soirée et passez une excellente semaine. Merci de nous avoir écoutés. C'était une émission sur la nation. Je vous laisse tout seul avec Serge Gainsbourg, la Marseillaise. Et puis après, peut-être une mazarinade. À bientôt.
Ouais, d'accord. Allons dans le fond de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. De leur verdure.